VOA Afrique, les infos à Washington.
Anastasie Tudiesch avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement éthiopien a décrété ce vendredi l'état d'urgence avec effet immédiat au lendemain de la démission du premier ministre Haïlé Mariam Dessalegn. On ignore pour combien de temps l'état d'urgence est instauré. Cette annonce, en tout cas, intervient au lendemain de la démission surprise du premier ministre qui doit toutefois rester en place jusqu'à la désignation de son successeur à une date pour le moment inconnue. En Afrique du Sud, au lendemain de sa prise de fonction, le tout nouveau président Cyril Ramaphosa a présenté les grandes lignes de son plan d'action lors de son premier discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Notre correspondante sur place, Patricia Huon, nous en résume les grandes lignes.
Cyril Ramaphosa vient effectivement de terminer son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Dans celui-ci, il a exprimé sa volonté de construire une société meilleure pour tous les Sud-Africains. Il a rappelé sa promesse de s'attaquer à la corruption, assurant que ceux qui avaient commis des crimes à ce niveau seraient punis et qu'une commission d'enquête sur la capture de l'État commencerait bientôt son travail. Il a aussi longuement évoqué la nécessité de travailler à réduire la pauvreté et les inégalités. Il tend la main aux investisseurs étrangers. Il a mis sur la table aussi des mesures concrètes pour l'emploi, notamment l'emploi des jeunes. Mais il a cependant également donné des garanties sur l'éducation gratuite promise par le gouvernement de Jacob Zuma, le maintien des aides sociales ou encore sur la transformation économique radicale, soit une réduction des inégalités économiques et raciales. Il a aussi promis d'accélérer la redistribution des terres sans compensation si nécessaire. Après ces promesses, Cyril Ramaphosa va maintenant devoir prouver qu'il est aussi en homme d'action.
Patricia Huon depuis Johannesburg. Au Sénégal, 7 ans de prison ont été requis contre le maire de Dakar, Khalifa Sall, jugé avec 7 de ses collaborateurs pour détournement de deniers publics dans le cadre de la gestion de sa mairie. Le procureur Serigne Bassirou Gueye l'a réclamé dans son réquisitoire devant le tribunal correctionnel où Khalifa Sall et ses co-prévenus sont jugés pour le détournement présumé de quelque 2,8 millions d'euros des caisses de la mairie grâce à la production de fausses factures. La défense fera sa plaidoirie lundi. L'opposition burundaise dénonce l'enrôlement forcé d'électeurs en vue du référendum constitutionnel prévu en mai et qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Selon le CNARED, une plateforme d'opposition regroupant les opposants en exil, tous les passants étaient obligés de s'arrêter à des barrages et personne ne pouvait passer sans montrer son récépissé d'enrôlement. L'opposition estime qu'il y a peu d'engouement de la population pour ce référendum.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Ici aux États-Unis, à Washington précisément, la justice américaine a annoncé l'inculpation de 13 Russes, dont un proche de Vladimir Poutine, et de 3 entités russes pour avoir interféré dans le processus politique américain en favorisant la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2016. Tous les inculpés sont accusés de complot en vue de tromper les États-Unis. 3 d'entre eux sont accusés également de fraude bancaire et 5 autres de vol aggravé d'identité, selon Robert Mueller, le procureur spécial chargé de ce dossier. L'enquête n'a toutefois pas de preuve que cette campagne de propagande ait eu un impact sur le résultat de l'élection, a précisé devant la presse le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein. Il a aussi souligné qu'aucun Américain n'avait, je cite, participé sciemment à cette activité illégale. Fin de citation. De son côté, Donald Trump a affirmé que sa campagne n'avait rien fait d'illégal et qu'il n'y avait pas eu collusion avec Moscou. La Russie a commencé sa campagne anti-américaine en 2014, bien avant que je n'annonce ma candidature à la présidentielle. Les résultats de l'élection n'ont pas été impactés. La campagne Trump n'a rien fait d'illégal, pas de collusion, avec un point d'exclamation, a tweeté le président. La Turquie a condamné à la prison à vie ce vendredi 3 journalistes de renom accusés de lien avec la tentative de coup d'État de 2016 au terme d'un procès très critiqué par les défenseurs de la liberté de la presse. Les journalistes ont été reconnus coupables de tentative de renversement de l'ordre constitutionnel selon l'agence de presse nationale Anadolu. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary, When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
When speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
When should we use, quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms? Miss, mademoiselle, ou comme le dit Gary, For single women, pour les femmes célibataires. Single women. Les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame. For married women, pour les femmes mariées. For married women.
Well, miss is for single women. Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms. Un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Mathieu a été l'heureux gagnant du gros lot à la loterie nationale de son pays. Il va raconter sa vie d'alors au journaliste Benjamin. Il évoquera aussi sa vie actuelle et exprimera des regrets. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste. Vous répondrez vrai ou faux aux deux énoncés que vous allez entendre. 1. L'émotion avait rendu Mathieu fou. 2. Son logeur le priait de rester. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? 2. Comment Mathieu s'est-il senti après son gain? 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Vous apprendrez enfin comment exprimer des actions au passé en écoutant des phrases au passé ou past simple en anglais. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste.
When was it? I mean, when did you win the lottery?
It happened on Friday, the 13th, in 2003, I think. Perhaps it was in 2002 or in 2004, maybe.
How did you feel?
I felt crazy for days and days.
Crazy? Why would you feel crazy? Was it very emotional?
Yep, lots of emotion, lots of happiness, lots of everything.
Can you tell me why?
Because it was so sudden and so good.
So what was the first thing you did with the money?
I bought my own house, a big house. When I moved out, the landlord was begging me not to go.
What else did you buy?
Furniture, nice furniture.
What else?
I replaced my old car. I went and bought a big German car.
Merci. Did you buy a Mercedes?
No, it was a BMW, young man.
Where did you keep the money?
In my pocket, in my bag, at the bank. For once in my life, the bank manager was running after me instead of me running after him.
That sounds great. So what is the situation today?
Different, young man. But that is an old story.
Why?
At first, my life was great. Now, I have nothing but trouble. Trouble with the landlord, trouble with the bank, trouble with my friends.
Even with your friends?
Well, you know what they say. No money, no friends. Trust me, I know.
Nous avons entendu dans cet entretien Mathieu parler de sa vie passée et de ce qu'il vit à présent. L'énoncé 1 est faux. L'émotion a rendu Mathieu fou. L'énoncé 2 est vrai. Son logeur l'a prié de rester. Voilà les réponses aux questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? Non,
2. Combien de voitures a-t-il acheté? 1. 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Une maison, des meubles et une voiture. Et si vous auriez gagné à la loterie, qu'est-ce que vous achèteriez avec l'argent gagné? Répétez ces phrases dites par Mathieu.
It happened on Friday, the 13th. I replaced my old car.
Répétez aussi. He called the bank manager. We listened to Matthew's story. Ces phrases expriment des actions passées au simple past avec des verbes réguliers. Benjamin aussi a posé ces questions en utilisant également le simple past. Répétez ces questions.
When did you win the lottery? How did you feel? What else did you buy?
Répétez aussi. Where did the students go? Why did the music stop? Comme Benjamin, nous avons utilisé dans ces questions « did » suivi du sujet et suivi de l'infinitif sans « to ». Nous connaissons maintenant l'histoire de Mathieu. Vous avez entendu « vrai » ou « faux » à des énoncés. Vous avez répondu à des questions. Vous avez appris à utiliser le « simple past » pour exprimer des actions passées et vous poser des questions. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com.
Ici Michel Joseph. Hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait! Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h temps universel sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com et en ondes courtes le samedi et le dimanche à 20h temps universel. Ne ratez pas English USA. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Martin Lerner et de son fils Alan. Ils veulent acheter des chaussures et une chemise dans une boutique de vêtements pour hommes, a men's store. Vous apprendrez à décrire ce que vous voulez acheter. English USA est diffusé en direct de Washington, au micro Michel Joseph.
Hi, Dad. What are you doing?
Waiting for your mother and Sue.
When are they coming?
At 2:00.
You're early. Come with me.
Where?
I want to buy a pair of shoes.
Where are we going?
Right here.
What kind of shoes do you want?
I need dress shoes.
I like these shoes. Do you like this kind?
No, they're for old men.
May I help you?
I want to look at some shoes.
What color?
Black.
Do young men wear black shoes?
Sometimes.
What kind of shoes do you want? Casual shoes?
I want dress shoes, but a little casual.
He doesn't want old men's shoes.
I see. Do you like these? We have them in brown and black.
They're okay.
Let's try them for size. What size do you wear?
Size 11.
Your foot looks bigger than size 11. I'm going to bring a pair of 11.5 too. Please sit down.
Do you like these?
They look too casual.
Let's try these.
Okay.
How do they feel?
They're too small. Do you have a bigger size?
Yes, I brought a pair. Try these.
That's good. It feels good. It's just right. What size is that?
Size 12.
Size 12? Let's try something else.
Tell me what you like.
I want black shoes. I want a dress shoe to wear at night.
A little casual.
Yes, a little casual. But I don't want a heavy shoe.
This one?
No, it's too big. It looks big.
Size 12 is a big shoe.
I know, but this one looks big.
You want dress shoes that are black, a little casual, but not big and heavy.
Yes, that's right.
Do you like this shoe?
It's green.
I have black ones.
Okay, let me try that one.
Vous avez déjà appris certains mots dont on se sert pour décrire des vêtements, par exemple big, black. Notez aussi que pour les chaussures, par exemple, size 11, taille 11. I want size 11 shoes. Je veux des chaussures taille 11.
I want black shoes. I want dress shoes. I want size 11 shoes. I don't want size 12 shoes. I don't want heavy shoes. I don't want big shoes.
Répondez maintenant aux questions de Martin Lerner. Commencez par I want. Par exemple, I want shoes. Or, bien, I want black shoes. Donc, vous répondrez à ces questions. Il vous demandera, par exemple, What color of shoes do you want? Vous voulez des chaussures de quelle couleur? À ce moment-là, vous répondez « I want black shoes » or « I want brown shoes », etc. Allez-y.
What color of shoes do you want? What kind of shoes do you want? What size shoes do you want?
Répondez aux questions qui vont suivre en disant ce que vous ne voulez pas. I don't want. Pour ce que vous voulez, rappelez-vous, I want. Pour ce que vous ne voulez pas, I don't want. Je vais vous demander, do you want casual shoes? Voulez-vous des chaussures décontractées ou plutôt ordinaires? Do you want casual shoes? À vous de répondre, I don't want casual shoes. I want dress shoes. Je ne veux pas des chaussures décontractées ou ordinaires, je veux des chaussures habillées. I want dress shoes. À votre tour.
Do you want casual shoes? Do you want heavy shoes?
May I help you?
I'm looking for a shirt.
What kind of shirt? A sports shirt or a dress shirt?
A casual shirt.
You're very tall. What size do you wear?
I wear a large size.
Look at these. Do you like these colors?
Exerçons-nous en faisant des courses dans un shopping mall aux États-Unis. On va aller dans un magasin de vêtements masculins, a men's store, tout d'abord. On ira bien sûr tout à l'heure dans un magasin de vêtements féminins, a woman's store, et dans un magasin de chaussures, a shoe store. La personne qui travaille dans le magasin vous demandera « May I help you? May I help you? Puis-je vous aider? » Vous êtes dans un magasin de chaussures, donc vous allez dire « I want some shoes » ou bien « I need some shoes ». J'ai besoin d'une paire de chaussures. L'assistant vous demandera sûrement « What size shoe do you wear ?» Vous chaussez du combien ?« What size shoe do you wear ?» Vous chaussez du combien ? Vous répondrez « I wear size 10 » ou bien « I wear size 11 » ou bien « I wear size 12 ». You're now ready to go shopping. Vous êtes prêt maintenant pour aller faire vos achats de vêtements ou de chaussures dans un shopping mall ici aux États-Unis. Practice hard. Alone or with friends and family? Exercez-vous, même tout seul ou en famille et avec des amis. Until next time, goodbye. Voulez-vous mieux parler l'anglais?
C'est fait!
Avec Anglais Télé, notre programme interactif télé multimédia.
C'est à votre tour de parler.
It's your turn to talk.
No, it's my turn to talk.
No, it's their turn to talk.
Mais vous aurez l'occasion d'intervenir en direct.
Et de pratiquer l'anglais avec...
Michel.
Et Roger.
Nous répondrons à vos questions.
Nous vous aiderons à formuler vos phrases. Participez à Anglais Télé.
Retrouvez-nous aussi sur notre groupe Facebook Anglais Télé.
Welcome to Anglais Télé. Bienvenue à Anglais Télé, votre émission pour pratiquer l'anglais. This is where you learn how to practice English. My name is Michel Joseph.
And I am Roger Muntou.
And we have two guests with us today.
Hi, everybody. I'm Eva Pacchianaro.
And?
Hi, I'm Yubin Kim.
And we're very happy to welcome our guest also in DRC, Portland, Maine. We're discussing about, and Mali, sorry.
That's right. We have a lot of people in Mali too.
We have to.
Yes.
Not, we must not forget our
That's
listeners.
That's right.
Okay.
That's right. That's correct.
So we're going to continue with to have.
Mm-hmm. Part two.
Part two, yeah. Which basically, there are challenges with to have because, especially with the contractions.
Right.
When we're using she, he, or it, has... When we do the contraction, it's or he's or she's, yeah. It can be confused with is. She's very pretty or she's got a lot of work to do. He's, so the he has and she has or he is or she is, mm-hmm. When that contraction happens, sometimes it's difficult to find out.
Yes.
What is this exactly?
Yeah.
Do you have an idea of an example that you could use in that context? Maybe Roger can help.
Yeah, I have an example here. This is what Michelle is trying to say. Third person of singular of the verb to be is he is or she is. You contract that, you're going to be his. He's sick.
Yes.
He's hungry. He's French. She is American. She's, no, she is.
It's.
Contraction, she is. Mm-hmm. It's funny. Mm-hmm. Instead of it is. Here in America, if you say, oh, it is funny, they know you're not American.
Okay. Right.
That's it.
It's going to sound bizarre.
They know you're not American, yeah. If you say, oh, it is cool, they know you're not American. Because Americans say, it's cool. It's funny. It's, they contract a lot. So this is the verb to be. Let's come back to the verb to have, the one Michelle was saying. There's also a third person in to have, which is he has, she has, or it has. That also has a contraction that also he's, right?
She
has, or, you can also put that contraction.
Yeah, so he's got.
He's got. So the only difference here, if I should add what Michelle was saying, the how would you know is because the one with the verb to have has to be followed by a verb.
Right.
That's the difference.
Yeah.
Okay.
So when you say, it's cool, cool is not a verb, so that's fine.
Okay.
We know that's to be. But in to have, you say, he's got to leave tonight. He's got to leave tonight. To leave as a verb.
Yes.
So we know... That's got it.
He has.
Right?
Has.
Does that make sense?
Yes, I got it.
Got it?
Oh, awesome. She got it.
Did you get it?